Il est tout juste 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un algorithme pour le grand débat, c'est qu'il faut penser compilation des données maintenant. Et c'est un institut de sondage et ses ordinateurs qui vont s'en charger, explication dans un instant. Le débat version geek, c'est aussi des ministres sur une plateforme de jeux vidéo pendant 11 heures aujourd'hui. Quand on veut toucher les jeunes, il faut ce qu'il faut. Des ministres, il y en aura plein à la place de la République à Paris ce soir, grand rassemblement contre l'antisémitisme. Votre invité y sera aussi, Nicolas.
Oui, sa parole est rare. Il s'agit de Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien Premier ministre de François Hollande. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. 01 45 24 7000, réseaux sociaux, applications mobiles, France Inter pour intervenir.
À la une également, Philippe Cobert blanchi des accusations de viol, révélation France Inter, le lancement d'une banque européenne pour le climat, les mineurs et l'alcool, aucun problème pour s'en procurer. Et puis Lyon face au Barça, soirée difficile en perspective pour les Lyonnais, héroïsme de rigueur.
France Inter.
Ce sont les scribes du grand débat, le nez sur le clavier. À chaque réunion organisée, il y en a eu 3000 depuis la mi-janvier. Leur synthèse est ensuite envoyée sur le site officiel du débat. Mais qui va traiter toutes ces données et comment analyser les contributions en ligne? Presque 1 million déjà. Autant dire un travail de titan pour lequel l'intelligence artificielle est donc appelée à la rescousse. Delphine Evenou, sous l'égide de l'Institut de sondage Opinionway.
Opinionway va avoir deux types de données à analyser. Tout d'abord, les questions fermées. C'est long, mais c'est simple puisqu'il s'agit d'établir des pourcentages. L'absence de réponse sera aussi prise en compte. Mais le site du Grand Débat propose également des contributions libres. Et c'est une autre paire de manches car il faut analyser du texte en masse. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en piste. Frédéric Michaud, directeur du département Opinion et Politique chez Opinionway.
L'outil d'analyse des données textuelles que nous utilisons va lire l'intégralité des verbatims des répondants et va relever toutes les notions qui sont citées par les répondants. Chacune de ces notions sera ensuite analysée, triée et classée en différentes catégories et sous-catégories. Alors évidemment, l'intelligence artificielle est complétée systématiquement par l'intelligence humaine qui vise à contrôler la cohérence des résultats et surtout garantir la bonne compréhension du sens des propos des participants.
Le défi face à autant de données, c'est d'être précis, ne pas laisser passer une pépite tout en étant lisible. Opinionway est en train de construire les catégories, une quinzaine. Elles doivent être validées par les 5 garants du grand débat. Les résultats définitifs, 4 rapports, un par thème, seront remis dès fin mars au gouvernement avant d'être mis en accès libre.
Là, c'est l'intelligence du jeu qui est convoquée, ou plutôt celle des joueurs de la plateforme de jeux vidéo en streaming Twitch. Ses utilisateurs vont pouvoir débattre avec 10 ministres qui se succéderont de 9h à 20h aujourd'hui. Une façon de toucher les jeunes, pas très présents dans ces réunions du grand débat, mais qui se bousculent par millions sur ce réseau que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître, à l'exception d'Olivier Bénis.
À sa création en 2011, personne n'aurait sans doute misé un centime sur le succès de Twitch. Et pourtant aujourd'hui, à toute heure du jour ou de la nuit, il y a en moyenne 1 million de personnes connectées sur le site simultanément.
Et non ! Et c'est perdu pour Mary !
Pour regarder quoi ? Eh bien, le plus souvent des parties de jeux vidéo en direct, commentées par le joueur lui-même.
Il ne doit pas mettre de balles dans l'otage, il en voit.
Ce qu'on appelle le streamer, qui apparaît généralement dans un coin de l'écran, un peu comme si vous regardiez un match de l'équipe de France raconté par Mbappé lui-même, ballon au pied, micro en main et caméra sur la tête. Mieux encore, les spectateurs, les viewers peuvent interagir avec le joueur, l'interpeller, lui poser des questions dans une petite fenêtre de chat qu'il peut lui aussi lire en direct. L'idée d'organiser un débat politique sur Twitch n'est donc pas si saugrenue. La plateforme permet un ping-pong verbal efficace, immédiat, mais aussi sans filtre face à ces anonymes d'Internet qui inquiètent tant le gouvernement ces derniers jours. Les ministres auront tout de même un avantage sur les streamers expérimentés. Contrairement à eux, ils pourront se concentrer pleinement sur les questions et les réponses sans avoir à se préoccuper du game over.
Et puisqu'on est dans la tech, voici une première en France. La reconnaissance faciale sera testée aujourd'hui et demain au carnaval de Nice. La CNIL a donné son accord à la mairie qui va faire tourner les caméras caméras et les algorithmes. Plusieurs scénarios seront expérimentés pour retrouver un enfant perdu dans la foule, par exemple, ou encore une personne recherchée. Un rapport sera ensuite remis à la CNIL.
Il est 8h05, Florence. La moitié du gouvernement Place de la République à Paris ce soir.
Rendez-vous à 19h pour faire bloc contre l'antisémitisme. Rassemblement très politique à l'initiative du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Une vingtaine de partis ont répondu à l'appel. Il y aura aussi François Hollande et son ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, invité dans quelques minutes sur Inter. On ne sait pas si Jean-Luc Mélenchon y sera. On sait en revanche que Marine Le Pen et le Rassemblement National feront rassemblement à part. 74% de hausse des actes antisémites l'an dernier, des tags, des insultes dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Le climat est lourd pour les Juifs de France, lourd pour la communauté de Sarcelles, par exemple, où s'est rendu Thomas Séchier.
Oui, ces derniers jours, Odeya, 17 ans, les a vécus péniblement.
Là, je trouve que c'est quand même aberrant qu'en France, il y a encore de telles situations qui existent, qu'on arrive à un point où on a parfois peur de marcher dans la rue.
De la peur et de la nausée aussi chez Élie, 24 ans.
C'est fatigant, on ressent un peu de peur et tout, parce que voilà, c'est toujours les Juifs qui sont visés. On a l'impression d'être de revoir en fait ce qui s'est passé en 39-45, de revoir des croix gammées.
Pour Menahem, qu'on voit sortir de la synagogue, ce n'est même pas étonnant.
On a toujours des militaires autour, c'est genre, on se sent un peu habitué, c'est genre, c'est difficile à s'habituer à ça, quoi, mais on vit avec là-bas. Genre une fois, moi je marchais ici, moi j'étais juif, et j'ai entendu plusieurs trucs.
On ressent aussi ce sentiment de fatalité chez Déborah, presque 80 ans, dont 50 à Sarcelles.
Quand il y a des crises, du chômage et tout, c'est les Juifs qui payent. Pourquoi les prendre toujours en bouc émissaire ? Nous nous sommes intégrés, nous n'avons jamais rien fait de mal à personne.
Alors le rassemblement de ce soir, il va faire du bien à Noah, élève de terminale.
Ça réconforte, parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui défendent cette cause-là, qu'on n'est pas seul à penser ça, qu'il faut se révolter, quoi, qu'il faut montrer que c'est pas normal et qu'on est au 21e siècle et qu'il faut que ça change, quoi, faut que ça cesse.
Voilà, Emmanuel Macron, lui, ne sera pas présent place de la République ce soir. Il s'exprimera au dîner du CRIF demain. Une victoire pour les associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme. Le compte Twitter de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol a été suspendu hier après de multiples signalements. On pouvait y lire des appels à la haine raciale et à l'apologie de crimes contre l'humanité. Il avait été pris dans le tourbillon du mouvement MeToo. Philippe Cobert, accusé de viol, est blanchi par la justice. C'est une information France Inter et Le Monde. Le comédien était sous le coup d'une plainte depuis un an, classée sans suite. Sarah Guibaudot, dans sa décision très détaillée, le procureur de Créteil estime que les accusations ne tiennent pas.
Le procureur de Créteil constate que les accusations portées par Solveig Halloin ne sont corroborées par aucun élément objectif. Il souligne que la plaignante n'a jamais exprimé son refus de la relation sexuelle qu'ils ont eue en 2010. Elle met son manque de réaction sur le compte de l'emprise qu'il aurait exercée sur elle, qui se rêvait comédienne. Mais pour le parquet, je cite, « l'admiration professionnelle que Madame Halloin vouait à Monsieur Cobert ne peut, s'agissant d'une relation entre adultes, être considérée comme une emprise intellectuelle. Philippe Cobert est hors de cause, mais il se dit profondément marqué.
Je ne me suis pas senti soulagé parce que j'ai jamais eu peur de l'accusation. Elle était tellement fausse, sur le coup ça a été tellement violent. Je me disais ça peut pas aller bien loin, c'est faux, cette personne je l'ai rencontrée deux fois. Surtout j'ai jamais violé personne dans ma vie, je sais pas comment vous dire, moi j'en serais incapable. Et après ça a été très long, c'est très difficile à vivre. Je penserai à ça tout le temps, en dehors du travail, le travail me sauve. J'oublierai jamais.
Solveig Halloin maintient ses accusations. Pour son avocat, elle ne se serait jamais risquée à porter plainte si elle n'avait pas eu des contacts avec d'autres victimes. Selon nos informations, elle a donné aux enquêteurs les noms de quatre femmes qui n'ont pas corroboré sa version. L'une d'elles, que j'ai rencontrée, témoigne au contraire de la tendresse de Philippe Cobert et se dit très choquée.
Voilà, et la plaignante ne sait pas encore si elle va relancer sa plainte. Le comédien, lui, portera plainte pour dénonciation calomnieuse. Il n'y avait pas foule à l'Assemblée cette nuit pour voter définitivement la réforme de la justice. 31 voix contre 11. Les députés seront sans doute plus nombreux aujourd'hui pour voter la loi école en première lecture qui prévoit l'instruction obligatoire à partir de 3 ans, le drapeau français et la marseillaise affichés dans les classes et la notion de parent 1, parent 2 qui fait tellement débat qu'elle sera corrigée en seconde lecture avec le retour aux mentions père et mère, les deux pouvant être combinés. Yeah. Aux États-Unis, tout finit devant les tribunaux. La bataille du mur ne fera pas exception. 16 États américains ont déposé un recours en justice à San Francisco contre l'utilisation de la procédure d'urgence nationale pour la construction de ce mur à la frontière mexicaine, décrétée la semaine dernière par Donald Trump pour passer outre l'opposition du Parlement, en contradiction, selon eux, avec la Constitution.
Et chacun reprendra ses djihadistes.
C'est comme ça que Donald Trump voit la fin de la guerre en Syrie. Il l'a dit ce week-end, sauf que les Européens ne se précipitent pas pour rapatrier leurs ressortissants. Le sujet a été à peine évoqué hier par les ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles, qui n'ont de toute façon pas la même vision des choses, Bertrand Galichet.
C'est en ordre dispersé, chacun pour soi, que l'Europe répond aux demandes pressantes des Kurdes et des États-Unis pour que les djihadistes gardés dans des camps en Syrie reviennent dans leur pays d'origine. D'abord hostile à tout rapatriement, la France envisage désormais un retour, mais au cas par cas, et une judiciarisation de chacun des arrivants. Même réticence à Berlin, où le ministère des Affaires étrangères conditionne le retour des djihadistes allemands à la garantie qu'ils seront incarcérés. Plus catégorique, Londres veut que les combattants de l'État islamique venus du Royaume-Uni soient jugés là où ils ont commis leurs crimes. Des dizaines d'entre eux ont déjà été déchus de la nationalité britannique. Le Danemark, d'abord conciliant, a parié sur la réinsertion des djihadistes revenus au pays avant de durcir sa législation et d'en poursuivre certains devant les tribunaux. L'Union européenne observe aussi comment la Russie continue de rapatrier des dizaines d'enfants dont les mères sont toujours détenues en Syrie, mais la plupart des pays d'Europe freinent encore toute possibilité de retour, invoquant des arguments juridiques et sécuritaires.
Un bateau de migrants intercepté par la marine britannique dans la Manche hier au large du Cap Griné. Une trentaine de personnes à bord, dont des enfants, qui ont été amenés à Douvres pour des examens médicaux et des interrogatoires. Trois hommes soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêté.
Et puis une banque européenne pour le climat, 8h11.
Ou comment prêter des milliards d'euros pour investir contre le réchauffement climatique. En voilà une idée qui a germé dans l'esprit de l'économiste Pierre Larouturou et du climatologue prix Nobel de la paix Jean Jouzel. Ils lancent ce soir leur pacte finance-climat avec près de 600 personnalités à Paris notamment. Laurent Fabius et Alain Juppé y seront, Célia Kiré.
L'Europe a bien été capable de créer une banque pour la reconstruction des pays d'Europe centrale. Elle a bien réussi à sauver les banques de la crise en 2008, alors elle doit être capable d'en créer une pour le climat. Selon l'économiste Pierre Larouturou, les États en ont besoin.
Quand Nicolas Hulot démissionne, il dit « je voulais 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments et je n'ai pas l'argent ». En Allemagne, c'est pareil, le ministre Altmaier ne sait pas comment financer la loi d'efficacité énergétique. Globalement, au niveau de toute l'Europe, si on veut gagner la bataille, il faut à peu près 1100 milliards chaque année.
Cette banque serait une filiale de la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. Elle pourrait être créée en quelques mois et elle prêterait à chaque État l'équivalent de 2% de son produit intérieur brut chaque année, soit 45 milliards d'euros pour la France. Le climatologue Jean Jouzel estime que ce serait justifié.
En la matière, l'argent c'est le nerf de la guerre et qu'il n'y a pas assez d'investissements actuellement, assez de véritable volonté politique. Vous pouvez regarder le tourisme, vous pouvez regarder le secteur de l'énergie, le secteur, le monde agricole. Il n'y a pas un secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique ce n'est pas moi.
L'éolien en mer, l'hydrogène, le stockage du carbone, de nombreux secteurs ont besoin de ces financements et 800 000 emplois pourraient être créés. Les signataires de ce pacte pour la finance climat veulent désormais convaincre Emmanuel Macron de porter cette idée auprès des autres chefs d'État.
Célia Kiré, quelle est la deuxième cause de mortalité en France ? Eh ben c'est l'alcool, figurez-vous. 41 000 décès par an selon Santé publique France qui s'inquiète de la consommation toujours aussi facile des jeunes. À 17 ans, 3 jeunes sur 10 disent qu'ils n'ont jamais eu besoin de montrer leur carte d'identité pour acheter de l'alcool dans un magasin. Et plus de la moitié d'entre eux ne s'est jamais fait contrôler dans un bar. Les ados qui confirment au micro de Morgane Euclin, refait au Mans.
Cette bande d'amis, âgés pour la plupart de 17 ans, va toujours dans le même bar.
Elle nous a demandé une fois la carte d'identité, mais sinon non.
Ouais, sinon non,
jamais.
Jamais, jamais.
Car c'est bien dans les bars que les ados peuvent se procurer de l'alcool plus facilement.
Le serveur, il venait, il nous demandait pas notre carte d'identité ou quoi que ce soit.
Il nous demandait juste ce qu'on voulait et ouais, puis on ouais. Servait.
Les bars, ils demandent moins que ouais, dans les supermarchés et tout ça,
en fait,
c'est pas
tant
pareil.
Qu'ils font leur bif et pas
ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'ils pensent pas trop à ça.
Dans les supermarchés, la loi est mieux respectée, c'est donc plus compliqué, mais pas impossible.
En pire, on change de magasin et il y en a forcément un qui nous endène.
Ça passe ou ça casse. Je suis arrivé, j'ai pris une bouteille, je suis allé à la caisse et on m'a jamais demandé vraiment ma carte.
Ils doivent être habitués.
Ça se voyait qu'on était quand même jeunes, hein. Ça se voyait qu'on n'était pas majeurs et on passait tranquillement. Ils s'en foutaient un peu en fait. Je pense qu'ils voulaient surtout finir leur journée.
Et pour passer à la caisse sans contrôle, certains ont carrément appris à choisir la bonne file.
Ça dépend des caissières. Les personnes qui ont genre 40 ans, ils nous demandaient nos cartes d'identité et tout, mais les jeunes qui ont notre âge, ils s'en fichent.
Le type d'alcool acheté jouerait aussi sur la fréquence des contrôles d'âge.
Si c'est de la vodka, ils y regardent plus souvent. Alors que si c'est des bières, ils s'en fichent.
Et même quand on leur demande leur carte d'identité, ça ne dissuade pas certains jeunes. Ils se contentent alors de demander à un adulte de faire l'achat à leur place.
Reportage France Bleu Maine. Enfin, gros défi pour Lyon ce soir en Ligue des Champions. Les Lyonnais reçoivent Barcelone en 8e de finale aller. L'OL qui ne s'est plus qualifié pour les quarts depuis 2010, quand Barcelone est quintuple champion d'Europe et possède un ogre des terrains, l'ogre Messi, qui peut faire à lui tout seul basculer un match et qui effraie autant qu'il fascine les joueurs lyonnais, Guillaume Batin.
Il y a encore 3 ans, Oussem Aouar accrochait le poster de Lionel Messi sur les murs de sa chambre au centre de formation de l'OL. Aujourd'hui, le jeune milieu de terrain lyonnais va jouer face à son idole.
Étant petit, on avait pas mal de fois regardé ces grandes équipes-là, notamment Barcelone. Donc forcément, ça sera un match spécial pour nous tous. Pour l'instant, ça sera peut-être le plus grand match de ma jeune carrière. Donc forcément, il y a beaucoup de motivation et d'excitation. L'aborder avec énormément de confiance et pas de crainte et face à des grands joueurs. Et surtout, je pense que l'équipe a démontré qu'elle avait le potentiel pour rivaliser face à des grandes équipes. Donc voilà, on va essayer de le reproduire.
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL, s'est rendu à Barcelone samedi. Il a vu une équipe catalane en difficulté et un Lionel Messi critiqué.
Quand Messi est moins bien, il donne 2 balles de but, il marque un but, il se crée 3 occasions. Si le gardien ne fait pas 3 arrêts extraordinaires, il peut marquer 3 buts, mais il est moins bien. Donc quand il est bien, mais même quand il est un petit peu moins bien, il reste un des meilleurs joueurs du monde. Ou si ce n'est le meilleur joueur du monde.
Et c'est l'international français Ferland Mendy qui aura le privilège de défendre face au génie du football, Lionel Messi. À Lyon, Guillaume Batin, France Inter.
Voilà, que Lionel Messi soit bien, moyennement bien, ou tout est tout à fait
vous
bien.
Vous êtes très bien.
On est très bien et le match aura lieu, Nicolas, à 21h ce soir, Lyon-Barça en 8e de finale.
Merci Florence Paracuelos.